Ce soir-là, personne ne parlait dans la grotte. Les parents naturels de l'enfant creusèrent un petit fossé dans l'une des galeries et y placèrent leur jeune garçon dans la position qu'il dormait normalement. Puis chaque membre de la tribu vint déposer une poignée de petites pierres dans la fosse. Péchel ouvrit la main du bambin et la referma ensuite sur le joli cœur qu'il tenait pourtant à conserver en souvenir du jour où un tailleur de pierre lui en fit cadeau. Ce jeune garçon en hérita, car l'homme du Moyen-Âge voulait qu'il se souvienne de lui lorsqu'il reviendrait de temps en temps sur terre pour se rappeler sa vie. Péchel pleurait, mais le chef des vieux lui dit « Tes larmes attristent cet enfant et ton brave chien qui tenta de le sauver des griffes du Jiu. Tu dois réaliser que la véritable liberté se trouve dans l'esprit et non dans les gestes qu'il fait accomplir au corps. » Les années passèrent et personne ne revit des traces étrangères dans la prairie. Qui étaient ces chasseurs mystérieux? À vrai dire, les Fiu-Fiu ne le savaient pas. Par contre, le nombre de mammouths, de rhinocéros et de rennes cessa de croître dangereusement. Les chasses devenaient plus difficiles et même très périlleuses. Péchel était devenu une sorte de dieu pour ces primitifs qui le croyaient immortel. En effet, cet homme vivait déjà depuis 84 ans dans cette tribu où plusieurs générations d'enfants se succédèrent sans que Piu-Piu ne vieillisse d'un seul poil. Il possédait toujours l'apparence d'un homme de 50 ans. Avec un simple petit calcul rapide, on réalise que ce missionnaire avait 168 ans. En effet, s'il avait 84 ans en arrivant dans cette tribu néandertalienne, il fallait y ajouter autant d'années comme membre honoraire des Fiu-Fiu. On arrive forcément à un âge très respectable. Piu-Piu se promenait dans un champ lorsqu'il entendit quelqu'un pleurer comme un petit enfant inconsolable. Tout à coup, il vit là, juste sous un arbre millénaire, un étrange personnage de la taille d'un jeune enfant. L'homme l'observa de loin et n'osa s'approcher de lui. C'est qu'il ignorait comment aborder un être qui possédait le corps d'un singe et une tête presque humaine. Il est vrai que les Néandertaliens avaient un petit air de famille avec le singe, mais ce petit personnage attristé avait les traits du visage trop fins pour être un primate. L'inconnu caressait une grosse bille bleue et blanche de la taille d'une citrouille. Cette boule était fendue à quelques endroits et un morceau de verre gisait au pied du petit étranger. N'écoutant que son cœur, Péchel décida de s'approcher de lui afin de lui dire d'une voix amicale. « Je suis un ami, je ne te veux aucun mal. Est-ce que tu comprends ma langue? »« Bonjour à toi, qui que tu sois, » lui répondit le singe en essuyant ses yeux rougis par les larmes. « Tu parles français, mais d'où viens-tu, petit bonhomme? »«
Je suis Primus Tazal et je viens de la planète Terre. »«
Comme moi, alors, » s'exclama l'homme en souriant.
« Je suis originaire de la Terre, mais pas toi. Je ne sais pas pourquoi je m'autorise à te dire cela, mais tu n'es pas originaire de cette planète. »«
Mais je suis né sur Terre, » s'empressa de répondre l'ancien châtelain du Moyen-Âge. « Qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas d'ici? » ?»«
Une impression, une simple impression. Quel est ton nom? » ?»«
Fontaine Denlard Péchel. » »«
C'est un nom terrien, mais tu ne viens pas d'ici, s'entêta à dire... »
Le singe homme ou l'homme singe?
Tu viens d'une lointaine planète comme tant d'autres fautifs.
De fautifs? Mais que veux-tu dire au juste par cela?
Je n'ai pas le droit d'attendre plus, toutefois. Tu en sais suffisamment pour te poser des questions sur tes origines. Cultive la fleur rouge de l'amour humain et tu trouveras le sens du mot fautif.
« Je ne sais pas si je dois te considérer comme un sacré farceur ou comme un fou, » lui répondit l'homme d'une voix troublée.
« Je ne suis pas ici pour t'expliquer tes origines, » lui dit le singe. « Je voulais simplement t'ouvrir la porte qui mène à la libération. Comme plusieurs fautifs, je réalise que tu as la tête très dure et que c'est inutile de devancer la nature. » Elle te conduira graduellement vers les tiens, au fur et à mesure que tu grandiras dans la connaissance du cœur. C'est en divisant un cœur bon et généreux que les fautifs se sont mérités l'exode, et c'est par un cœur bon et généreux que tu retrouveras ta place au sein d'un peuple heureux. Je te demande simplement de méditer cela, aussi souvent que tu voudras bien t'attarder à regarder au fond de toi-même, comme devant un miroir. » L'homme baissa les yeux, comme si ce singe venait de toucher une corde sensible de son âme. La première chose que Pêcheur négligea en rencontrant ce singe fut de ne pas le consoler. Cet homme n'était pas méchant, mais inhumain. Il ne faudrait pas prendre Pêcheur pour un être humain, car il ne venait pas de la terre. Le mot « inhumain » ou « extraterrestre » voulait dire la même chose dans son cas. En effet, Pêcheur venait d'une autre planète, mais il ne s'en souvenait pas. C'était quelque peu ridicule de ne plus se souvenir de Primus Tazal, un ami depuis fort longtemps. Mais voilà, il fallait bien que le missionnaire oublie également cela en venant sur Terre. Le singe examinait sa boule d'un air attristé, et Pêcheur s'agenouilla devant lui en disant d'une voix émue, « Tu es triste, et je suis là me demander si je suis originaire d'une autre planète. Je dois sûrement l'être, pour ne pas t'avoir demandé pourquoi tu pleurais à chaudes larmes. Tu veux bien me pardonner cette ignorance du cœur humain? » « Bien sûr que je te pardonne ton manque d'attention. Tu sais, je suis triste d'avoir abîmé ma boule magique en roulant trop vite dans la côte du temps. On a beau dire que l'intemporel est un passage sans accident de parcours, il en va autrement lorsqu'on s'engage dans le couloir du temps. Je me suis retrouvé dans une courbe similaire à celle qui fit chuter les anges du ciel. Oh, tu parles d'une descente. Je tentais de garder mon équilibre en marchant sur ma petite terre lorsqu'elle s'est mise à accélérer dans la courbe spirale. J'ai perdu le rythme de mes pas et cela a freiné son mouvement naturel. J'ai chuté dans un précipice en serrant ma sphère pour la protéger. Cette descente m'a finalement conduit dans cette époque préhistorique. Tout se serait bien passé malgré tout, car il faut le dire, je suis un habitué de ces voyages dans l'intemporel. Malheureusement, je me suis retrouvé au sommet de cette montagne que tu vois là-bas, et ma boule s'est mise à rouler en bas. Comme tu peux le constater, elle est en piteux état. Il faut la réparer rapidement, sans quoi c'est la planète Terre elle-même qui en supportera les effets destructifs. Tu sais, ma boule est magique et surtout fragile comme notre planète. Si je la caresse, la paix et l'amour chercheront à se répandre dans le monde. Si je la frappe du poing, des guerres éclatent et le bruit du tonnerre résonne dans le ciel. Si je la fais rouler paisiblement, tout va bien rouler sur terre. Je détiens un pouvoir sur le mouvement de la bille bleue et sur ses quatre éléments. J'ignore si cette descente rapide de la montagne aura des conséquences tragiques sur le climat de la Terre, mais je n'y peux rien. « Tu tiens la planète Terre entre tes mains ?» demanda Pêcheur. « Non, voyons, sous mes pieds, lui répondit le singe en souriant. Je la fais rouler comme une boule musicale. Elle émet des sons tristes ou joyeux, selon l'humeur de l'humanité. » C'est fantastique. Tu crois cela? Pas moi, lui dit le personnage en examinant l'état lamentable de sa boule terre. Je me sens responsable de tout ce qui vit sur notre planète, et crois-moi, je n'ai pas le temps de me reposer. Tu vois le morceau sur le sol. Toujours agenouillé devant le singe, Pêcheur prit le petit morceau de verre et le donna au personnage en disant, on dirait un fragment de verre taillé. « Tu veux dire, de temps détaillé, lui répondit le singe attristé. Ce morceau de ma boule représente 400 000 ans d'histoire qui seront perdus à jamais pour les hommes. C'est dramatique. Ce fragment est trop abîmé pour que je puisse le recoller sur ma sphère. Tu sais ce que cela va avoir sur l'histoire de l'homme s'il manque tous ces millénaires dans son évolution. C'est comme si j'effaçais les 2 mois précédant la naissance d'un enfant. » On dira qu'il a fallu 7 mois pour le mettre à terme, alors qu'il en aura fallu 9. Que s'est-il passé pendant ces 2 mois manquants? Les savants se sentiront bien ennuyés par ces millénaires où toute trace de la présence de l'homme demeurera introuvable. Tout ça à cause de ce fâcheux accident avec ma boule magique. Vraiment troublé par les aveux du petit singe, Pêcheur lui répondit, « C'est fantastique. Non, dramatique, voyons. Tu ne sembles pas réaliser l'importance de connaître ses origines. Si je te montre une pierre, elle est à l'état brut, et ensuite, celle-ci qui aura déjà été taillée. Tu voudrais tout de même savoir comment s'est faite cette métamorphose. En 400 000 ans, l'homme a tellement progressé spirituellement qu'il lui faudra encore 200 000 ans pour retrouver ce qu'il a connu à l'âge d'or. Tu vois, ce morceau de verre manquera à lui dans l'histoire, et sa disparition ralentira l'évolution des hommes. Tu dis que l'humanité a perdu des milliers d'années d'histoire, mais est-ce si important de savoir ce que l'homme a fait durant cette longue période de l'âge de pierre? Puis-je te faire remarquer, Péchel, que l'homme et le singe ont longtemps été le même être que tu appelles l'homme. Pourquoi a-t-il compris un jour qu'il était l'homme et non le singe d'après toi? Tu peux toujours me dire qu'il a évolué. Mais je te répondrai que le singe a également évolué sans pour autant devenir un homme. Alors, pourquoi la conscience a-t-elle sorti l'homme de sa nature purement animale et pas le singe? Tu vois bien qu'il manque un chaînon quelque part. Il est arrivé un véritable miracle dans l'histoire de l'évolution de la planète, au point que l'espèce animale appelée homme est sortie d'un seul coup du règne animal pour entrer dans le monde de la conscience. Oui, cela s'est fait partout à travers le monde, et non seulement dans un point précis de la Terre. Imagine-toi que l'une des races de singes peuplerait le monde au même titre que les autres singes. Jusque-là, rien ne les distingue. Un singe est un singe, et donc toutes les races se valent dans les arbres. Un jour, cependant, l'une des espèces choisit de quitter les arbres pour vivre dans les champs et pour marcher comme les hommes. On dira que c'est pour avoir quitté les arbres que l'homme s'est différencié de son cousin le singe. En réalité, cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi cette espèce particulière décida de quitter les arbres en même temps. Que ce soit en Afrique ou en Europe, ce singe a appris que sa conscience le distinguait à présent des autres singes. Ce n'est pas l'évolution, mais une transformation radicale de ses pensées qui le séparait des autres. Partout dans le monde, le primus homo, ou le premier homme, apparut à la tête des autres êtres vivants de la Terre. Sans même se connaître, des singes de divers continents prirent conscience de leur distinction. Ils se dirent, « Je réalise que je suis vivant. » Que je possède des mains et des pieds, que je peux choisir ce qui me plaît, que je suis capable de créer des objets, que je peux penser et rêver. Cet éveil changea ce singe, et rien dans l'évolution naturelle n'explique ce phénomène. L'homme était là, et partout dans le monde, ses traces soulignèrent sa présence dans les coins les plus reculés de la planète. Encore plus intrigué, Péchel lui demanda, « Tu veux dire que l'homme est devenu conscient d'un seul coup? » « Oui, si rapidement d'ailleurs qu'il n'a pas été nécessaire qu'il se déplace à travers le monde pour se multiplier. En Afrique, en Asie, en Europe, et même sur des petites îles, le singe Primus Homo, ou Primo Homo, descendit de son arbre pour vivre avec une conscience. » Je pourrais comparer cet éveil à un aveugle qui verrait d'un seul coup qu'il ne voyait rien parce qu'il avait les yeux clos. Tous les singes pourraient voir comme l'homme, mais il y a ce voile de la conscience qui refuse de se lever pour eux. C'est fantastique. Mais non, c'est un héritage légué au Primus Homo par cette race de la Terre dorée. Le morceau brisé est justement ces 400 000 ans où elle peupla la planète. Tu vois qu'il y a de quoi être triste de savoir que les plus belles années de l'histoire humaine se retrouvent en miettes à cause de mon imprudence. Oh, je ne sais pas ce qui arriverait si je tentais quand même de recoller ce morceau sur ma boule. Je vais t'aider à la recoller et même à la recoudre si tu penses que c'est préférable. Nous pouvons toujours la recoller et nous verrons ensuite s'il y a lieu de coudre les failles qui risquent de fendre la terre en deux. Je ne voudrais pas que les hommes m'accusent d'avoir laissé d'énormes crevasses parcourir leur continent. Primus Tazal prit le latex de plusieurs plantes, ainsi que celui d'un arbre à caoutchouc, ou ébéa, pour ensuite mélanger le tout à de la cire d'abeille. Il en fit une sorte de colle épaisse. Puis il commença à l'appliquer sur des fissures de sa terre minuscule en disant « Il se peut que l'odeur de cette colle se répande sur la terre sous forme de brume épaisse, mais je n'y peux rien. Il faut que ça tienne solidement. » « Dis-moi, Primus, lui demanda Pêchel en pressant sur une fissure en train de se refermer. « Tu veux bien me parler de ces 400 000 ans d'histoire oubliées? »« Je veux bien t'en parler après tout. Nous allons passer un bon moment à coller les fissures. Presse sur cette faille que j'y applique de la colle. Bon, en voilà une des réparées. Voyons voir s'il y en a en Amérique maintenant. »« En Amérique ?» demanda l'homme étonné. « C'est un pays. » Il faut savoir que Pêchel ne connaissait pas l'Amérique, puisqu'il venait du Moyen Âge, et que Christophe Colomb ne l'avait pas encore découverte avec ses quelques 50 millions d'Amérindiens. L'Amérique, lui dit le singe, est non seulement l'un des plus vastes continents du monde, mais la terre de mes ancêtres de la forêt verte. Au nord de ce continent vivaient des hommes qui ignoraient la misère des autres peuples. Ils ne construisaient rien en pierre, mais en bois d'érable, de pin, d'épinette, de chêne, de merisier et de peuplier. Les habitants d'Europe leur donnaient le nom de Dieu de la forêt verte. Ces hommes étaient tous les sages des continents qui s'étaient installés au nord de l'Amérique. Un jour, cette terre portera le nom de Greenland. Grâce à leur pouvoir pacifique, ces hommes créèrent un anneau doré autour de la planète. Pendant quelques 400 000 ans, la paix fut non seulement respectée partout dans le monde, mais devint tout à fait naturelle dans le cœur des hommes. Personne ne désirait le pouvoir, ni le confort. On vivait comme l'homme des cavernes, mais un jour, les découvertes prouveront que les hommes de cette époque possédaient des connaissances très avancées sur le cosmos, le corps humain, les courants électriques et magnétiques. Ils savaient pratiquer des opérations très sophistiquées avec des instruments fabriqués à base de cristal. Le nord de l'Amérique devint la terre des sages, car c'est là qu'il y avait le plus important gisement de cristal. Cette pierre facilitait la communication entre ces maîtres de la forêt verte et les hommes. Aussi bien te le dire, ces sages ne possédaient pas des traits humains, même s'ils étaient natifs de la terre. Regarde-moi, et tu sauras à quoi elle ressemble exactement. Je suis le seul survivant de ce monde, et ma mission est de protéger la planète Terre. Cette boule magique est la plus grande réalisation de ces maîtres d'Amérique. Est-ce que tu connais ces grosses pierres qui sont dressées un peu partout en Europe? On en voit plusieurs en Angleterre et en France. Je vais te faire une révélation importante, car un jour, il se peut fort bien qu'elles disparaissent sans que les hommes sachent exactement à quoi servaient ces blocs de pierre éparpillés dans les champs. Je vais simplement te parler des habitants qui les ont dressés. On les appelait Karnak. C'étaient des hommes qui pouvaient déplacer des grosses pierres sans le moindre effort. Ils se servaient du magnétisme et surtout d'une loi naturelle appelée gravitation. Avec le simple son produit par leur voix, ils dressaient des pierres dans des endroits où des courants ondulatoires sont les plus sensibles au son. Mais j'arrive là où les hommes ont vu des pierres dans des champs et n'ont pas compris la raison de leur présence. Les Karnak coiffaient ces pierres d'anneaux d'or. C'est fantastique, s'exclama Pêchel, qui devenait toujours excité lorsqu'on lui parlait de l'or. C'était des anneaux en or véritables. Le petit singe rit de bon cœur avant de répondre, « De l'or encore plus pur que celui qu'on traitera à travers le monde civilisé. Mais il n'y a rien de fantastique à orner des pierres avec des anneaux d'or. Ce qui est extraordinaire toutefois, c'est le pouvoir fantastique que possédaient ces pierres auriellées. On traçait des sillons dans ces anneaux, et des musiciens de l'époque frottaient une sorte de craie sur ces lignes ondulées et réalisaient des sons capables de faire pousser des fleurs rapidement, et surtout les moissons. Dès que le soleil frappait ces anneaux, des vibrations harmonieuses s'en échappaient et se mêlaient aux ondes de la terre. Le peuple chantait sur cette musique et s'en servait pour communiquer avec les maîtres de l'Amérique. « Personne ne volait ces anneaux d'or sur les pierres ?» demanda Pêcheur. Mais pourquoi volerait-on des millions de cerceaux musicaux, pêchait-elle? On en plaçait partout par simple décoration. Toutes les pierres se faisaient coiffer ainsi, car le peuple aimait les entendre chanter. Le plus gros de tous, c'est-à-dire de tous les disques d'or, se trouvait au sommet de la plus haute montagne d'Europe. Il faisait 200 mètres de circonférence. Lorsqu'il vibrait par les rayons du soleil, on pouvait l'entendre de tous les coins de la terre. Une fois par an, pas moins de 2000 musiciens venaient se rassembler autour de l'anneau et semblaient l'astiquer de leur craie. Crois-moi, cette musique était angélique. Personne n'avait envie d'être méchant, car ses sons pénétraient jusqu'à l'âme et l'embellissaient. Un jour, un violent orage vint mettre un terme à la race des Karnak. Un éclair toucha l'anneau de la montagne et le bruit de sa vibration tua tous les habitants. Que veux-tu? Les maîtres n'avaient pas songé aux conséquences désastreuses que pouvait avoir un bruit de tonnerre amplifié par un anneau aussi puissant. Le son mortel fut capté rapidement par tous les autres cerceaux dressés au sommet des pierres, et ceux-ci vibrèrent si fort qu'ils firent éclater le cerveau des habitants. Puis, comme on peut s'y attendre, les maîtres de la forêt verte captèrent également ce son et périrent de la même manière. Les vibrations terribles secouèrent les glaces du Grand Nord de l'Amérique et en firent fondre une grande partie. Tout changea par la suite. De vastes terres furent inondées et gelèrent avec l'arrivée des périodes très froides. Elle dura 30 000 ans. Durant ce temps, se passa le miracle dont je t'ai parlé. Les maîtres d'Amérique étaient morts physiquement, mais ces grands esprits demeuraient autour de la planète. Ils cherchaient à repeupler la terre. Leur conscience était le seul héritage qu'ils voulaient léguer aux hommes d'une nouvelle humanité. L'autre était disparu par erreur et s'était étendu sur une période de 400 000 ans. Je suis le seul survivant de ma race, puisque je n'étais pas sur terre au moment du séisme, mais sous terre. J'étais le gardien de la boule de mes maîtres, et on m'avait déjà enseigné la façon de voyager dans l'intemporel. Lorsque j'ai compris qu'une nouvelle race humaine venait de naître à cause de la conscience de mes maîtres, je me suis toujours appliqué à veiller sur elle. J'étais persuadé que le fabuleux continent Atlantide était cette terre dévastée et engloutie par un séisme. C'est mon ami Ramage qui me l'a dit. Ramage était un descendant des Atlantes. Il rencontra Péchel alors qu'il vivait au Moyen Âge. Le singe lui dit, « Il ne faudrait pas mêler les cartes inutilement, lui répondit-il, en lui montrant une large bande de terre fendillée sur sa boule. « Tu me parles des Atlantes, et moi je te parlais des maîtres de la forêt verte. Il s'agit de deux époques fort différentes, puisque celle des Karnak, par exemple, remonte à plus de 300 000 ans avant l'homme de Néandertal. J'ai parlé d'une autre race, et donc antérieure à celle de l'histoire officielle. Par conséquent, il faut attendre 50 000 ans après la fin de la race des Karnak pour retrouver les premiers habitants d'un vaste continent qui porta un jour le nom d'Atlantide. Son nom originel est O. L'histoire confond souvent les habitants de O avec ceux qu'on appelle Atlante. Le continent de O occupait le tiers de la planète. Il était relié à l'Afrique, l'Amérique et l'Australie. On pourrait ajouter une quatrième pointe de terre qui traversait une grande mer froide au sud, mais personne ne l'empruntait. C'était une chaîne de montagnes volcaniques inhabitables. Des brumes recouvraient ce cordon rocheux à cause de l'influence de la mer froide. Le Primus Homo vivait déjà sur le continent de O lorsqu'il se distingua des autres singes. Et il était toutefois d'une haute stature. On pourrait dire que le Primus Homo de O était un géant. Il vivait au centre du continent. Plus tard, d'autres Primus Homo plus petits peuplèrent le long des côtes de O. Et tout comme les géants, ils étaient sédentaires. Le continent était si vaste que ces deux races humaines primitives passèrent des milliers d'années à vivre comme deux voisins qui s'ignorent. Les géants étaient végétariens et les habitants des côtes vivaient de la pêche. Ils furent d'ailleurs ces hommes que les Grecs durent combattre environ 9 000 ans avant la naissance de Platon. Ils se disaient Atlantes à cause de l'influence d'un tout petit peuple que j'ai moi-même conduit sur ce continent. Je vais revenir bientôt à ces étrangers qui venaient du canton fantastique d'Atlantis. C'est de là que vient le nom d'Atlante. Au début, il était facile de traverser entre l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et l'Australie. Je dois toutefois admettre qu'il y eut très peu de communication entre les primus homo de la Terre. Chaque tribu vivait dans son coin. Il faudra attendre l'arrivée des Atlantes pour que des expéditions soient envoyées en Amérique. En effet, ces étrangers connaissaient l'existence de la race d'or et voulaient retrouver le site où ils vivaient jadis les maîtres de la forêt verte. J'avoue que c'est moi qui ai révélé aux Atlantes l'histoire de mon peuple. Je savais que le continent de haut subirait une transformation climatique et d'autant plus qu'il sombrerait un jour sous les eaux. Je retrouvais dans ce peuple venu d'Atlantis de très bons élèves. Je voulais les instruire des grandes connaissances de ces maîtres de la forêt. Je n'avais pas besoin de leur expliquer l'importance de retrouver ces pouvoirs dans un site où s'y trouvait un important gisement de cristal. C'est pour celui-ci que les expéditions atlantes vinrent s'établir au nord de l'Amérique. Pêcheur s'empressa de dire « Au Greenland, alors ?» Non, le Greenland était redevenu une grande terre étendue de forêts vertes, lui dit le singe, mais les bouleversements climatiques et sismiques avaient déplacé les principales minières de cristal plus au sud. Cette partie du monde portera un jour le nom de Nouvelle-France. Plus tard, elle deviendra une terre d'accueil pour des millions d'individus venus de pays dévastés par des tremblements de terre. Ce coin d'Amérique du Nord sera même un lieu spirituel unique en son genre, car les rescapés devront cohabiter et vivre leur foi en respectant celle des autres. On y bâtira des milliers de temples de différents cultes, mais pas pour y faire la propagande de leur foi. On cherchera et on trouvera finalement une harmonie humaine. Cela sera impossible à réaliser dans les vieux pays où trop de millénaires culturels empêcheront les nations et surtout les religions de travailler à une paix véritable. Toutefois, sur cette terre d'accueil, il arrivera quelques confrontations ethniques et religieuses, mais uniquement à cause de certains fanatiques qui se croiront en droit d'imposer leur vision ancestrale à un peuple qui sera très jeune comme culture. Mais avec l'arrivée de millions d'individus qui posséderont également des rites et des mœurs, vieux comme le monde, un contrepoids va s'établir. Si ailleurs la venue de rescapé serait matière à conflit culturel, il en ira autrement de cette terre d'accueil. Complètement dépaysés, ces gens de divers pays ne pourront adapter leur manière de vivre comme des immigrants désirant s'enfermer dans des castes à part, car je dois le préciser, c'est un nouvel empire qui résultera de toutes ces différentes cultures. Le noir ne pourra y afficher sa différence de couleur, tout comme le blanc, le jaune ou le rouge. C'est sur cette terre de survie que toutes les races finiront par s'entendre et ce mélange tout à fait chaotique en apparence, il en sortira une nation forte et surtout pacifique. Elle sera le résultat de toutes les cultures à travers le monde et de toutes les religions. On y enseignera ce qui est universel, commun à tous les hommes, unitaire dans sa diversité de langues, de lois, de rites, de mœurs et de connaissances. Pourquoi cette terre et pas une autre? Demanda Pêcheur étonné. Pour deux principales raisons, lui dit le singe. La première concerne la stabilité du sol. Les gens viendront d'abord s'établir sur cette terre pour des raisons écologiques. Puis la deuxième raison est d'ordre spirituel. J'ai dit que c'était la terre des maîtres de la forêt verte, n'est-ce pas? Un grand scandale religieux et surtout historique incitera des millions de croyants à venir s'établir sur ces terres de la prime histoire. On fera des découvertes ahurissantes au sujet d'une race ayant précédé celle du primus homo, et l'Amérique du Nord perdra son statut de nouveau monde. Il ne l'a jamais été de toute manière. Les savants vont s'intéresser davantage à l'histoire des Karnak, et surtout celle des Amérindiens. Le problème est que le sol de la terre d'accueil est très acide, et qu'il sera difficile de retrouver des vestiges comme en Afrique ou en Europe, où la pierre servit à plusieurs habitations. En Amérique, Le bois était partout et donc, en toute logique, il aurait été ridicule de ne pas s'en servir pour construire des cités. Ce n'est pas sur la terre d'accueil que se feront les grandes découvertes archéologiques et anthropologiques, mais au Greenland. Les glaces conservent des vestiges intéressants sur cette race préhistorique. On retrouvera sans doute quelques preuves de la venue des Atlantes sur la terre d'accueil. Cela va exciter les esprits, car l'Atlantide fascinera les hommes de cette époque. C'est fascinant. Non, c'est un simple cheminement logique dans l'histoire du monde. Ce que je ne comprends pas, Primus, c'est pourquoi nous collons un continent qui va finir par s'engloutir sous les eaux. Mais c'est normal, voyons, la colle ne tiendra plus et l'Atlantide sombrera dans l'oubli. C'est pour cela que j'ai suggéré aux Atlantes d'aller s'installer ou installer des colonies en Amérique du Nord et du Sud. Si tu sais que ce continent va se décoller avec le temps, pourquoi ne pas simplement le coudre? Ce n'est pas sorcier, ça. Voyons, Péchel, tu penses comme une bottine de 7 lieues. As-tu songé aux terriens qui devront vivre sur une planète cousue comme une balle de baseball? C'est quoi le baseball? C'est un sport américain. Amérindien, alors? Non, américain. Je t'en prie, Péchel, cesse de me poser des questions et souffle plutôt sur la colle pour qu'elle durcisse au plus vite. Non, pas si fort. Tu vas provoquer un cyclone. Souffle délicatement, comme je fais. En soufflant sur la boule magique, Péchel eut un petit sourire en humant le parfum des forêts tropicales. Il sentit plus loin l'odeur des hautes montagnes du Tibet. « Cesse de jouer, Péchel, et souffle sur le continent de haut, lui dit le singe en soufflant sur une des îles du Pacifique. « Bon, ça y est, j'ai soufflé trop loin, et voilà le sable du désert du Sahara qui se promène partout. « Hum, ici je sens l'odeur de l'or, s'exclama Péchel en frottant son nez sur un coin de l'Afrique. « Oui, il y a une mine d'or dans ce coin-là. Regarde, tous ces petits points dorés sur ma boule sont des mines d'or. Les blancs sont des mines de diamants, et les noirs sont des nappes de pétrole. Je suis certain que tu vas te souvenir de tous ces coins du monde où il y a de l'or, ma parole. « Pourquoi pas, Primus? Cette rivière que je vois là contient des pépites d'or, n'est-ce pas? »« Hum, probablement. » « Bon, je pense que c'est bien recollé. Je dois te fausser compagnie, mais j'apprécie beaucoup de t'avoir connu, Péchel. »« Tout l'honneur est pour moi, mon cher Primus. Puis-je savoir où tu vas à présent? »« Je voudrais bien te le dire, mais c'est un secret. Notre chemin se divise ici. Et qui sait, si nous n'allons pas nous retrouver un jour quelque part? » « Ah, mais c'est une possibilité, certaine, ça. J'ai l'impression que je vais voyager souvent dans l'intemporel, et il se peut qu'on se retrouve dans le même corridor. »« C'est bien possible, mon ami, lui répondit le singe, en remontant sur sa boule, qu'il fit chanter en s'éloignant. « Bonjour à toi, qui que tu sois, » s'exclama Péchel en souriant. Le temps s'écoulait lentement au pays des Néandertaliens. Péchel voulait que la tribu quitte les grottes afin d'aller s'établir dans un endroit où le gibier soit en abondance. Le chef, appelé Taboum, ne voyait pas le salut de ses membres dans l'exode. Il croyait, au contraire, que les esprits des animaux devaient sûrement en vouloir à sa tribu pour avoir quitté la plaine. On faisait toutes sortes de rituels pour calmer les esprits mammouths et on jurait n'y être pour rien dans le massacre des animaux. Une nuit, l'un des sages néandertaliens fit un rêve, dans lequel il rencontra le conseil des animaux de la plaine. L'un des esprits animaux lui dit, « Dis-moi ce qu'a fait ta tribu pour retrouver ces chasseurs qui ont massacré nos frères. Crois-tu que c'est à cause du massacre que nous fouillons la plaine? Nous savons fort bien que vous avez toujours respecté les rites qui nous concernent. » Alors, grand esprit rhinocéros, demanda le sage, pourquoi fuir cette plaine et nous laisser sur notre faim? Je te le demande encore, qu'a fait ta tribu pour retrouver ces chasseurs qui possédaient le cœur de nos frères? Au matin, le chef parla à ses frères de son rêve et posa la même question. Les chasseurs s'en défendirent en disant, pourquoi poursuivre des étrangers qui ne sont jamais revenus dans la plaine? Est-ce pour cela que les animaux nous quittent peu à peu? » Le chef demanda l'avis à Piu Piu. Il était là lorsque ce drame arriva 40 ans auparavant. Il pouvait éclairer ces jeunes chasseurs éprouvés par la négligence de leur père. Je pense connaître le fond de la pensée des esprits qui n'accusent personne d'avoir manqué de respect envers les animaux, répondit Péchel, en opinant tristement de la tête. En laissant les étrangers fuir avec le cœur des animaux, vos pères ont manqué de reconnaissance envers eux. C'est comme si quelqu'un prenait le cœur de ceux que vous aimez. Devez-vous demeurer indifférent ou bien tenter de reprendre ces cœurs qui devront être ensevelis dans votre grotte? Où sont les cœurs de ces animaux? Ils ont peut-être été jetés quelque part et dévorés par des gioux. Est-ce ainsi qu'on prouve son amitié aux animaux qui vous nourrissent? Il fallait prouver votre reconnaissance en recherchant ceux qui ont massacré vos amis. C'est pour cela, je pense, que les animaux quittent les plaines. Ils ont été blessés par l'infidélité de vos pères. Que devons-nous faire pour retrouver nos amis animaux? Demanda le chef d'une voix attristée. Il faut quitter vos grottes et suivre un nouveau troupeau de mammouths. Avec de la patience, vous obtiendrez leur amitié. Nous ne pouvons faire cela, Piu Piu, lui répondit un sage traditionnaliste. Les grottes sont notre habitat naturel. Notre mère est la terre et ses enfants, Piu Piu, doivent demeurer dans son ventre. Un enfant doit quitter sa mère pour vivre comme un homme, dit Péchel. Tu ne comprends pas notre culture, même si tu as passé plusieurs soleils et lunes dans notre tribu. Nous te respectons et nous t'aimons tous, Piu Piu. Tu dois te dire que les Piu Piu manquent de sagesse en refusant de quitter le ventre de la terre, n'est-ce pas? Je le crois fermement, Taboum. Les femmes et les enfants ont faim, et j'ignore si nous avons suffisamment de fourrure pour les protéger du froid. Ce n'est pas en chassant les petits animaux que les Piu Piu obtiendront des peaux de mammouth, de rhinocéros laineux et de bœuf sauvage. Ils ont tous quitté la plaine. Ce que tu dis est vrai, mais très loin tout de même de la vie naturelle. Tu dois comprendre que la terre est la mère qui laisse sortir son enfant de son ventre lorsqu'il naît et qui le reprend lorsqu'il meurt. Son corps est à la terre et son esprit est au monde d'ailleurs. C'est dans le ventre de sa mère qu'arrive l'esprit de l'enfant qui doit naître. Le ventre est magique, l'intérieur de la terre est magique, et tout ce qui se cache à l'intérieur des choses est magique. Le Piu Piu vit dans un lieu magique qui le transforme comme cet enfant vivant dans le ventre de sa mère. En demeurant dans les cavernes de la terre, nous laissons chaque fois que nous sortons de son ventre pour aller chercher de la nourriture à l'extérieur. Et lorsque nous revenons dans son ventre, la terre nous transforme en un nouveau-né. Si nous quittons les cavernes sans y revenir, nous deviendrons très grands comme les hommes, mais nous aurons perdu l'origine de nos connaissances. Tu comprends cela? Oui, je comprends cela, Taboum, lui dit Péchel en baissant les yeux. L'étranger comprit ce jour-là que les Piu Piu craignaient de perdre leur culture et leurs connaissances en quittant les grottes. Elles représentaient le centre de leur vie et surtout les stimulus perpétuels de leur foi en la terre. C'est elle qui fait repousser les fruits à chaque printemps, qui fait reverdir les champs et qui accueille ceux qui dorment dans son corps. Elle représente la régénération de toutes choses. Les Piu Piu ne quitteraient jamais les cavernes, et Péchel se contenta de dire en sortant de la grotte, « Vous avez tort de demeurer ici, et tort de vous en éloigner. C'est à vous de choisir quelle sera votre mort. » Cette tribu allait devoir disparaître à court ou à long terme, puisqu'elle ne pouvait s'adapter à la vie de l'homo sapiens. D'ailleurs, celui-ci n'avait nul besoin d'un néandertalien qui manquait à son devoir en refusant de conquérir la terre. Une nouvelle ère s'ouvrait, et surtout une véritable bataille pour la quête du pouvoir de l'homme sur l'homme. Avec l'homo sapiens, l'intelligence et la raison vinrent détrôner le sentiment instinctif de l'homme envers sa nature. On se sentait plus grand et plus fort. Si le néandertalien était l'enfant obéissant à sa mère nature, l'homo sapiens était cet adolescent qui la confronterait jusqu'à l'âge adulte. Un matin, Péchel marchait le long de la rivière et une voix lui dit, Il faut retourner dans le couloir intemporel. Une mission t'attend en Atlantide. Sacré nom d'un chien, s'écria Péchel, qui vit aussitôt l'entrée du corridor lumineux s'ouvrir miraculeusement devant lui. Puis-je au moins saluer mes amis avant de partir? Tes amis te regardent de la caverne. L'homme détourna la tête pour saluer les primitifs qui savaient, par instinct, que leur ami Piu-Piu devait s'en aller ailleurs.